Ravie à toutes et à tous d'être là avec nous ce matin pour ce webinaire exceptionnel, parce que nous avons un invité exceptionnel qui n'est autre que Jean-François Pillard. Alors Jean-François Pillard, oh, bah, c'est le patron, je dirais, du social, on peut le dire comme ça, Jean-François. Jean-François Pillard, qui a été DG lui-même, qui a été en charge justement du social au MEDEF, qui a été DRH auprès de l'entreprise Schneider Electric au niveau monde pendant des dizaines d'années. Mais je crois qu'en tout cas, il a pu croiser l'ensemble des regards des partenaires sociaux. Et je suis ravie de l'accueillir. Il est aussi, bien évidemment, par ailleurs, senior advisor au sein du cabinet Alixio. Et pour ma part, Stéphanie Matedi, moi, je n'ai qu'une casquette de juriste. Voilà, je suis juste docteur en droit et je suis ravie d'être directrice de la practice formation, conseil et dialogue social au sein du cabinet Alixio. Et j'ai surtout un regard d'observatrice du monde social et syndical. Alors, on est absolument ravis d'aborder avec vous ce rapport d'évaluation des ordonnances Macron qui, bon, on s'attendait à une révolution grâce à ces ordonnances. Bon, on voit bien que cette révolution n'a pas eu lieu. Mais du coup, la question est, est-ce qu'on pourrait profiter du prochain renouvellement pour réfléchir à la prochaine volonté du dialogue social, au prochain contrat social d'entreprise que l'on pourrait créer ensemble? On s'aperçoit qu'il y a encore de nombreux enjeux de dialogue social au sein des entreprises, et notamment des enjeux de proximité, des enjeux de renouvellement des mandats, et puis des enjeux de compétences. Et on va laisser du coup Jean-François intervenir sur justement la restitution, la synthèse des forces et faiblesses du dispositif des ordonnances.
Merci Stéphanie pour ton introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment très content de partager avec vous sur cette thématique. Une précision, nous sommes deux coprésidents de la mission évaluation des ordonnances travail. Marcel Grignard, un ancien de l'équipe dirigeante de la CFDT, et moi-même. Comme on dispose d'un temps limité, j'invite ceux d'entre vous qui souhaitent avoir plus de détails sur l'évaluation à aller sur le site de France Stratégie qui assure finalement le fonctionnement du comité d'évaluation. Et là, vous aurez accès à l'ensemble de l'analyse et à une synthèse. Moi, ce que je peux dire de façon très pragmatique, c'est qu'on va aller sur les deux champs qui concernent très directement les entreprises et notamment les entreprises de taille importante. C'est un, la transformation des instances représentatives et deux, la négociation collective. Concernant les instances représentatives du personnel, qu'est-ce qui apparaît comme flagrant dans l'évaluation qu'on mène depuis 4 ans? D'abord, c'est que la rationalité qui était visée est effective, puisque maintenant les CSE ont été mis en place. Hein. Les dernières statistiques connues, c'est celle de 2020, il y avait 90 000 CSE qui avaient été élus, 49 000 procès-verbaux de carence. Hein. Le taux de couverture par ces nouvelles instances, hein, est à peu près identique à celui qui existait avant, c'est-à-dire 80% de salariés couverts. La mise en place de ces accords s'est faite minoritairement par accord. Hein. Il y a eu environ 9000 accords concernant la mise en place des CSE. La nouvelle commission santé-sécurité se met en place de façon très progressive. Voilà ce qu'on peut dire sous l'angle statistique. Maintenant, toujours en restant sur les instances représentatives, regardons d'un point de vue finalement entreprise qui est le vôtre, hein, quels sont les points d'attention essentiels. Moi, ce qui m'apparaît flagrant sur la base de ce rapport, ce sont les points suivants. Un, la question de la proximité. On en débattra. Les travaux que nous menons mettent en avant le fait que, d'une façon générale, la proximité a été laissée pour une part de côté et que dans les entreprises à établissements multiples, on assiste à une centralisation du dialogue social au niveau du CSE, ce qui pose, à mon sens, deux sujets. Le premier, c'est que si on ne prend pas en compte de façon efficace la proximité, il y a un risque non négligeable de dérégulation sociale sur le terrain, avec notamment ce qui existait avant les ordonnances, les réseaux sociaux, l'individualisme plus fort dans les comportements, des attitudes corporatistes. Si je fais un lien avec la société civile, c'est ce qu'on a vu s'exprimer d'une certaine façon à travers des mouvements comme les Gilets jaunes ou plus récemment comme le convoi de la liberté. Donc, premier point d'attention. Et deuxième point important que vous devez vous-même constater, à partir du moment où on va vers une certaine centralisation en direction des CSE, se pose la question fondamentale de la compétence et de la formation des élus et parfois des représentants des directions, puisque finalement, il faut faire dans cette instance le grand écart entre à la fois des questions de terrain qui n'auraient pas été traités au bon endroit, traiter également les nombreux processus d'information et de consultation qui s'empilent au fil des années. Et maintenant, vous avez des consultations dans le champ économique, dans le champ technologique, dans le champ social et, cerise sur le gâteau, maintenant, dans le champ environnemental. Donc derrière se pose véritablement une question d'animation, de compétences et de fonctionnement du CSE qui nécessitera probablement, on en parlera notamment lors du prochain webinaire, des réglages. L'autre point qui ressort de façon, j'allais dire, pratico-pratique d'un point de vue entreprise, c'est l'épineuse question de santé et sécurité au travail. Le CHSCT n'existe plus. Il est maintenant nécessaire de trouver un réglage avec les nouvelles commissions qui sont mises en place et leurs articulations avec le CSE. La bonne nouvelle, me semble-t-il, c'est qu'il y a maintenant un lien entre les questions de santé et de sécurité au travail et les aspects économiques et de stratégie. Voilà. Et enfin, dernier point concernant les instances représentatives du personnel avant de passer à la négociation collective, c'est l'enjeu des prochaines élections professionnelles. Nous, Marcel Grignard et moi-même, dans l'avant-propos qui nous engage tous les deux et qui n'engage pas le comité d'évaluation, on pointe un risque non négligeable d'avoir des difficultés de renouvellement au moment des prochaines élections professionnelles. Parce qu'il y a une combinaison mise en place des ordonnances, la période Covid qui a quand même épuisé les salariés en général et épuisé les élus et les représentants des directions, des comportements beaucoup plus individuels et un baby-boom qui frappe également les élus. Donc nous, on dit, on allume un warning, attention à la préparation de ces prochaines élections professionnelles, parce que si on n'y prend pas garde, on risque de voir apparaître des difficultés qui ne seront pas sans conséquences, à nouveau sur la régulation sociale et sur l'efficacité du dialogue social dans les entreprises. Voilà concernant les instances représentatives du personnel. Maintenant, sur la négociation collective, là, je vous propose également deux temps, un temps plutôt macro et statistique, et puis des sujets plus opérationnels. Concernant les accords, on voit une augmentation des accords d'entreprise significative pendant la période de mise en place des ordonnances, en particulier au fait qu'il y a eu des accords pour mettre en place les nouvelles instances représentatives du personnel, pas uniquement dans les entreprises de moins de 20 salariés, ce qui ne vous concerne pas, mais c'est important dans le paysage, on voit un développement des accords par voie de référendum. Une majorité des accords portent sur le temps de travail et on n'a pas pu se livrer au petit exercice sur le dialogue social pendant la période Covid. Il se trouve que Marcel Grignard et moi-même, nous avons été mandatés par le cabinet et la ministre pour faire un travail spécifique sur ce sujet. Et ce que je dirais de façon là aussi très synthétique, c'est qu'on a constaté à travers les très nombreuses auditions qu'on a réalisées que finalement, pendant la période Covid, il y a eu plutôt une amélioration du dialogue social avec comme caractéristique le fait que les acteurs sociaux se sont affranchis de la liturgie sociale et institutionnelle habituelle et de façon très pragmatique pour faire face à cette situation inédite, hein, ont trouvé par la voie du dialogue social de bonnes solutions, notamment en matière de santé et sécurité. L'autre point qu'on met en avant, c'est le fait que les directions d'entreprise ont beaucoup plus communiqué avec leurs élus et les organisations syndicales concernant là aussi la marche dans l'entreprise, donc des informations beaucoup plus actives et transparentes. Le point de préoccupation pendant cette période Covid qui apparaît de façon claire, c'est que le fossé qui existait déjà entre les élus, les organisations syndicales et les salariés s'est encore creusé, notamment compte tenu des outils de communication à distance. Il y a trois nouveaux dispositifs qui ont été mis en place par les ordonnances. La négociation de l'agenda social sur une période de 3 ans, très peu utilisée par l'entreprise. C'est une surprise en ce qui me concerne parce que je pense que c'est une souplesse importante pour permettre de faire coller agenda social et réalité de l'entreprise. On pourra en parler. Et puis deux autres nouveaux outils, la rupture conventionnelle collective et les accords de performance collective. Et puis il y a un point sur lequel, qui est un point de débat, c'est la mise en place ou le développement de l'accord majoritaire, qui est considéré par certains comme une contrainte rendant très difficile finalement la décentralisation du dialogue social, et d'autres qui considèrent que c'est un garant de la négociation. Maintenant, si on va rapidement sur les outils dont je parlais, la rupture conventionnelle collective, on peut dire que elle est utilisée ce pourquoi elle est faite. Elle vient compléter les dispositifs de gestion de l'emploi en France, et nous on a maintenant une architecture globale de gestion de l'emploi qui nous rend très compétitifs par rapport à ce qui se passe en Europe. L'accord de performance collective, là aussi, pour être rapide, je dirais deux temps, avant période Covid, pendant période Covid. Avant période Covid, une utilisation hétérogène, une utilisation conforme à l'esprit des ordonnances à travers des négociations loyales et constructives, hein, et dans certains secteurs ou certains types d'entreprises, hein, une utilisation qu'on peut qualifier d'abusive, allant plutôt utiliser plutôt pour remettre en cause de façon assez brutale le contenu d'un certain nombre d'accords sociaux sans contrepartie réelle. Pendant la période Covid, le curseur a bougé de façon significative dans le bon sens, hein, et on voit maintenant des accords plutôt bien faits avec des préambules qui affichent les objectifs politiques, hein, une durée déterminée et des logiques de contrepartie. Je rappelle que l'accord de performance collective est quand même un outil tout à fait intéressant pour améliorer par la voie du dialogue social la compétitivité de l'entreprise. Voilà sur le moi très rapidement dans le temps qui m'était imparti les focus que je souhaitais partager avec vous.